Vous écoutez France Culture.
Je viens de croiser Adèle, c'est elle qui est éblouissante. Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes incroyablement à l'heure. Notre invité de cet après-midi s'appelle...
Benoît Furic.
Il élabore des playlists musicales pour le blog Indictators et a participé à l'ouvrage Petit manuel musical du football aux éditions Le Mot et Le Reste. Avec lui, c'est une dernière étape d'une semaine entièrement imaginée autour du mot but, une étape musicale. Le but sans les cages, ça commence. Cette semaine, nous avons donc questionné le but en le différenciant d'abord du projet et de l'objectif, en racontant ensuite de beaux buts, des buts marquants, des buts donnant rendez-vous avec l'enfance, avec un football créatif, désirable et collectif. Nous nous sommes souvenus de Pelé et de son 1000e but marqué, nous avons loué sa grâce et ses danses. Nous avons ensuite soumis la question du but à la pensée bouddhiste et regardé l'horizon, nous avons répété jusqu'au silence, le but est l'éveil, le but est l'éveil. Le but est l'éveil et nous avons respiré bien fort. Ensuite, nous avons gardé les cages. Dans les buts de Hand, le corps couvre et protège 2 mètres sur 3 et le duel tireur-gardien n'est pas une mince affaire. Vous pouvez réécouter ces 4 émissions. On s'occupe de la 5e, il est 16h passé de 1 minute. Vous écoutez France Culture et on touche au but. C'est pas la peine de crier. Sur le Polaroid du jour apparaît un stade parlant. Sur le plateau du milieu, dernière étape de cette semaine qui, comme chaque vendredi, est une étape musicale. Le thème qui a relié nos émissions est décliné aujourd'hui en 5 morceaux musicaux. Carte blanche à Benoît Furic. Vers 16h50, nous écoutons un dernier poème de Gilles Heyot avant de retrouver Julie Gacon sur la route du 5 à 7. Et en attendant, la comédienne Ava Hervier, qui a déballé pour vous sa bibliothèque cette semaine, choisit un extrait de Middlesex de Jeffrey Eugenides. On écoute.
Jusqu'alors, Desdemona ne s'était jamais trompée. Ses 23 prédictions s'étaient avérées. Elle avait su que Tessie serait Tessie. Elle avait deviné le sexe de mon frère et de tous les enfants de ses amis de l'église. Les seuls enfants dont elle n'avait pas deviné le sexe avaient été les siens. Sonder les mystères de sa propre matrice portait malchance à une mère. C'est toutefois sans crainte qu'elle sonda celle de ma mère. Après quelques hésitations, la cuillère oscilla du nord au sud, ce qui signifiait que j'allais être un garçon. Affalée sur sa chaise, les jambes écartées, ma mère tenta de sourire. Elle ne voulait pas de garçon. Elle en avait déjà un. En fait, elle était si certaine que j'allais être une fille qu'elle m'avait déjà choisi un prénom, Calliope. Mais quand ma grand-mère s'écria en grec « Un garçon !», le cri fit le tour de la cuisine, traversa l'entrée et pénétra dans le salon où les hommes étaient en train de parler politique. Et ma mère, l'entendant répéter tant de fois, commença à croire qu'il disait peut-être la vérité. Dès que le cri parvint à mon père, cependant, il se dirigea d'un pas décidé jusqu'à la cuisine pour déclarer à sa mère que cette fois-ci, du moins, sa cuillère se trompait. « Et comment le sais-tu ? » lui demanda Desdemona. À quoi il répondit ce qu'auraient répondu de nombreux Américains de sa génération. « C'est scientifique, ma. » Depuis qu'ils avaient décidé d'avoir un autre enfant, Milton et Tessie étaient convenus qu'ils désiraient une fille. Chapitre 11 venait d'avoir 5 ans. Il avait récemment trouvé un oiseau mort dans le jardin et l'avait rapporté dans la maison pour le montrer à sa mère. Il aimait tirer sur des choses, taper au marteau sur des choses, écrabouiller des choses et se battre avec son père. Dans une maison si masculine, Tessie avait commencé à se sentir la femme en trop et se voyait 10 ans plus tard emprisonnée dans un monde d'enjoliveurs et de hernies. Pour ma mère, une fille serait une sorte de contre-insurgée qui aimerait les petits chiens comme elle et la soutiendrait quand elle proposerait d'aller voir Holiday on Ice. Au printemps de l'année 1959, quand on commença à parler de ma conception, ma mère ne pouvait prévoir que bientôt les femmes brûleraient leur soutien-gorge par milliers. Les siens étaient rembourrés, raides, ineffugés. Quel que fût l'amour qu'elle portait à son fils, elle savait qu'il y avait certaines choses qu'elle ne pourrait partager qu'avec une fille. Quand il partait travailler le matin, mon père avait des visions d'une petite fille aux yeux noirs. d'une douceur irrésistible. Elle était assise à côté de lui, surtout quand il était arrêté au feu rouge, déversant ses questions dans son oreille, aussi patiente qu'omnisciente. « Comment est-ce que ça s'appelle, papa ?»« Ça ? C'est le blason des Cadillacs. »« C'est quoi le blason des Cadillacs ?»« Eh bien, il y a longtemps, il y a eu un explorateur français qui s'appelait Cadillac et c'est lui qui a découvert Détroit. » Et ce blason était le blason de sa famille en France. C'est quoi la France ? La France, c'est un pays en Europe. C'est quoi l'Europe ? C'est un continent qui est comme une grande étendue de terre, beaucoup, beaucoup plus grande qu'un pays. Mais les Cadillacs ne viennent plus d'Europe, Koukla. Elles viennent d'ici, de notre bonne vieille Amérique. Le feu passait au vert et il démarrait. Mais mon prototype ne disparaissait pas. Il était là au feu suivant et à celui d'après. Sa compagnie était si agréable que mon père, homme plein d'initiative, décida de voir ce qu'il pourrait faire pour métamorphoser sa vision en réalité.
Ava Hervier, vous terminez par un extrait de Middlesex de Jeffrey Eugenides, roman américain et auteur américain, né aux États-Unis en 1960. On est finalement dans une sorte de medley de tous les thèmes qui furent abordés dans les différents textes que vous avez choisi de lire aux auditeurs. Que raconte ce roman ?
Alors, je ne l'ai pas fini. C'est mon livre de chevet. Donc, je n'en sais pas plus sur la chute. En revanche, je sais que c'est l'histoire donc, d'un hermaphrodite, enfin d'un XXY, donc de cette personne, Calliope Stéphanide, je crois, qui naît fille et devient, à l'adolescence, garçon. Enfin, qui a du coup les deux sexes. Et qui finalement, je crois, enfin j'en suis pas là encore, mais qui se fait opérer pour... En tout cas, le jeu du bouquin a 40 ans et est un garçon, donc il change de sexe. Voilà, donc c'est un peu le livre en cours et c'est vrai que ça réunit un peu toutes les thématiques.
Peut-être on peut dire, puisque des thématiques on en a parlé, que c'est de la littérature vivante que vous avez choisie. À savoir, il n'y a pas de... littérature morte, c'est pas ça que je veux dire, mais ce sont des gens qui sont en train d'écrire, qui sont vivants. Mmh.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de...
Mis à part Duras, qui est tellement vivante que j'en oublie qu'elle est morte.
C'est ça.
Mais c'est quand même très prégnant.
Ouais, c'est vrai que c'est des auteurs qui sont plutôt d'actualité. Et c'est vrai que celui-ci... c'est le même mec qui avait écrit Virgin Suicide, que j'ai pas lu mais que j'ai vu en film et qui m'a filé cauchemar sur cauchemar. Et là, c'est autre chose, mais je trouve ça assez... en fait, c'est dans la même veine, quoi. Disons que c'est une manière de... Parce que c'est pas du tout... l'auteur n'est pas du tout hermaphrodite, mais on pourrait vraiment le croire, parce que c'est écrit comme une autobiographie. Ce que j'aime bien dans ce livre, c'est... Alors, l'écriture est pour moi plus classique que les autres écritures qu'on a découvertes, mais c'est qu'à la fois, ça parle de encore quelqu'un qui est différent, donc encore la question des cases et tout ça, et à la fois, l'auteur, en fait, part vachement d'éléments psychanalytiques, psychologiques, c'est-à-dire que retrace l'histoire des grands-parents, des arrière-grands-parents, pour arriver à lui et comme s'il avait cherché une raison en fait à son XXY. Alors je ne sais pas s'il y a des raisons à ces choses-là, mais j'aime bien en revanche l'espèce de fouille archéologique qu'il peut y avoir des origines, des parents, dans quel contexte ils ont grandi, comment, pourquoi. Ça, je trouve ça toujours intéressant sans chercher des réponses, mais... Et en fait, ça part vraiment de ça, quoi. Il revient, il part en Grèce, ils viennent de Grèce, les grands-parents, puis ils s'installent aux États-Unis. Et à chaque fois, il tisse petit à petit le lien jusqu'à son arrivée. Les parents qui veulent tellement une fille, du coup, pour lui, ça expliquerait l'entre-deux, les parents issus de consanguinité. Enfin, après, lui, il cherche des raisons, mais c'est très, très bien romancé, en fait.
Et à suivre, puisque vous êtes en train de le lire. Par quelle musique on finit ?
Alors, on finit par Vitamin C de Cannes. Stay at the corner. She
Vous pouvez réécouter la bibliothèque d'Ava Hervier sur franceculture.fr. La semaine prochaine, c'est le comédien et metteur en scène Yves-Noël Genot qui déballe sa bibliothèque. Et pour l'instant, c'est à peine croyable et audible, mais c'est visible. Voici le Polaroid. La pelouse est amoureusement peinte en vert. Chaque brin d'herbe compte un accent sur sa voyelle. Il en a arraché une poignée généreuse qu'il frotte dans l'intérieur de ses paumes. Il en fait de la laine souple. Il range les filaments obtenus et les aligne à ses pieds en ouvrier, en apprenti. Il ne quitte pas des yeux le terrain. Ses amis courent. La balle circule, il ne quitte pas des yeux la balle. Ses yeux circulent, sont aimantés par elle. Ses pieds ont hâte, son corps est immobile, sage et brûlant. Tout à l'heure, il est entré avec les autres et avec les autres, il a chauffé ses muscles, couru sur le côté, tiré ses bras vers un ciel déjà pourpre de victoire. Le banc est un endroit trop plat pour lui. Quand l'ennui double la rage de n'être pas en train de jouer, il reprend une poignée d'herbe qu'il roule patiemment dans ses mains et sculpte devant lui de l'air en forme d'attente. Coach passe. Coach repasse. Ne le regarde pas. Le stade est plein, bruyant comme un stade, agité comme un œuf intenable. Et c'est le stade qui prononce son nom d'une seule voix, c'est le scénario d'un rêve bien fait. Un stade, serpent, sophistiqué et bavard, qui prononce correctement son nom. C'est un appel clair, mais sans objet. Coach passe et repasse. Il le voit à peine. Il joue toujours avec les brins de pelouse. Coach entend le stade. C'est impossible autrement. Et que dit le stade ? Son nom.
Novamente ele chegou com inspiração, com muito amor, com emoção, com explosão, um gol, sacudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo. Depois de fazer uma jogada celestial, um gol. Tabelou, triplou dois zagueiros, deu um toque, triplou o goleiro. Só não entrou com bola e tudo porque teve humildade em gol. Foi um gol de classe onde ele mostrou sua malícia e sua raça. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a galera agradecida se encantava. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a galera agradecida se encantava. Viu, maravilha, nós gostamos de você.
Gente, Pour ce Polaroid, et je préfère m'excuser d'avance pour l'accent, nous écoutions Fio Maravilla de Jorge Ben, premier extrait choisi par Benoît Furic, à qui l'on donne carte blanche cet après-midi, pour décliner en 5 morceaux musicaux le thème but. Il revient sur ce choix. Dans quelques secondes, juste le temps de vous signaler, la semaine prochaine sera présenté Un temps bis, deux femmes, une comédienne et une altiste, révèlent à notre écoute de façon inédite la musicalité des mots de Beckett, en résonance avec 3 pièces pour alto. Georges Apergis s'est entouré de Valérie Dréville et de Geneviève Strausser pour Un temps bis. C'est visible du 12 au 15 juin au théâtre de Gennevilliers à Gennevilliers. Réservez vos places, jeunes gens. Vous écoutez Pas la peine de crier sur France Culture, il est 16h, passé de 18 minutes. C'est la deuxième partie de notre émission et c'est le dernier moment d'une semaine imaginée autour du mot but. Évidemment, cette semaine, nous l'avons programmée ayant en ligne de mire la phase terminale de la Coupe du Monde de football ayant lieu cette année au Brésil. Mais si nous avons envisagé le mot but sous des angles aussi divers que la pédagogie du projet, les souvenirs d'un commentateur sportif, le bouddhisme et le vécu des gardiens et gardiennes de hand, c'est le football qui sera aujourd'hui encore notre point de départ. Point de départ seulement, car la déclinaison musicale que vous proposez aujourd'hui, Benoît Furic, finira par nous emmener assez loin du terrain. Vous élaborez des playlists musicales pour le blog In Dictators, à peu près une par semaine ?
Oui.
Quel jour ?
Alors moi, j'en fais un peu moins, mais j'ai des camarades qui alimentent régulièrement les playlists qui concernent des choix arbitraires, sans raison, mais avec un but, faire plaisir à l'auditeur.
Voilà. Et vous avez aussi participé au petit manuel musical du football, paru aux éditions Le Mot et le Reste, et dirigé par Pierre Etienne Minunzio. Alors, puisqu'on on vient d'entendre Jorge Ben, on peut revenir peut-être sur ce premier choix, qui est un choix qui nous laisse encore sur le terrain.
Oui, et puis surtout, c'est un des rares morceaux où on ne s'en rend pas compte, mais on vient de vivre un but en direct. Voilà. Le football est maintes fois évoqué dans la musique, mais sur ce morceau-là, c'est un but qui est raconté. Donc Jorge Ben, c'est, pour resituer un petit peu, c'est un musicien brésilien qui est né en 45, donc qui a vécu toute la deuxième partie du XXe siècle. À partir de la vingtaine d'années, il commence à vraiment jouer, à se produire, etc. Et il fait partie de cette tradition qui continue à chanter en portugais, qui travaille sur des rythmes de samba et qui, en plus, branche les guitares électriques. Donc il y a un côté extrêmement langoureux, mais en même temps une sorte de révolution qui se déroule musicalement. Et là-dessus, il y a ce morceau qui est un de ses plus grands morceaux, de ses plus grands succès. Et il raconte, effectivement, c'est pas un hasard pour le Brésil, il raconte un but qui a eu lieu le 15 janvier 72 au stade de Maracana, qui en plus est un stade absolument mythique pour les amateurs de football. Et lors de cette partie, dont on n'a pas de traces télévisées, mais lors de cette partie qui oppose le club de Flamengo au club de Benfica,
de Lisbonne, c'est ça ?
Voilà, exactement. Lors d'un tournoi d'été, c'est pour ça que le club de Benfica vient jouer au Brésil. Le public commence à reprendre dans les tribunes, dans les travées, le nom de Fio Maravilla, j'espère que je le prononce bien, qui est un joueur fantasque, doué, pas tant que ça, mais il a beaucoup de charisme. Et finalement, il rentre sur le terrain, il marque, grand moment, etc.
Beau but ?
A priori, beau but, c'est ce que raconte.
Pas d'image.
Voilà, c'est ce que raconte. Il faut se fier à la description de Jorge Ben. Et à partir de là, une chanson est créée. Et cette chanson est d'autant plus forte, donc, qu'elle remporte un grand succès, mais qu'en plus, il raconte un but. Et ça, c'est quasiment le seul exemple qu'on ait du début à la fin où on nous conte un but dans la musique populaire. Qui existe. Donc là, c'est vraiment très intéressant. Alors, on peut l'imaginer, je crois qu'il raconte la récupération au milieu de terrain, l'élimination de deux adversaires, dribble du gardien, et hop, il marque. Explosion de joie, etc. Le morceau sort la même année, Et le morceau a donc un immense succès au point qu'il remporte le Festival international de la chanson.
On est en quelle année donc ?
On est en 72. On est en 72 et à la suite de ça, le morceau a une histoire un peu rocambolesque. Parce que le joueur, donc ce fameux Marailia, se sent un peu lésé par le succès et a priori mal conseillé, décide d'attaquer Jörg Eben, qui change le titre de sa chanson. Et qui, par un truchement propre à la langue portugaise, le morceau devient Filho Maravilha, qui devient Fils Prodige. Et donc, il le chante comme ça pendant une trentaine d'années. Et arrive au milieu des années 2000, une sorte de réconciliation entre le joueur et le grand chanteur brésilien. Et depuis 2007, le titre pourrait être réinterprété avec le nom original. Donc voilà, on a une évolution, c'est-à-dire qu'on... Au sein de ce morceau, il y a la musique brésilienne, dans ce qu'elle a pu produire de meilleur dans la deuxième partie du XXe siècle. On a la passion du football. Alors, des chansons sur le football, il y en a énormément. Mais des chansons qui racontent l'acmé d'un match qui est, après tout, le but.
Et presque techniquement, moi je ne parle pas du tout portugais, mais la description de ce but-là, qui est un but historique, est-ce qu'elle est faite quasiment techniquement ? Est-ce qu'on on peut utiliser des termes qu'on a pu utiliser cette semaine, à savoir vraiment des déplacements, des schémas de jeu, la défense, l'attaque ?
On n'en est pas dans le tactique, on n'arrive pas au tactique.
Ça
reste poétique. C'est Jörg Eben, c'est une poésie brésilienne qui est dans la droite ligne du reste de ses œuvres. Mais il touche là au... Finalement, on peut se demander est-ce qu'il est si difficile de raconter un but, après tout ? Parce qu'on peut parler de l'ambiance, on peut parler de l'avant, de l'après, de beaucoup, beaucoup de choses, ou de l'esprit que génère une équipe, du côté collectif, mais le but en lui-même est finalement, est étonnamment assez délaissé dans la chanson, à part quelques points. Mais pour en faire une chanson complète...
C'est le seul exemple, par exemple, vous qui avez travaillé sur ce petit manuel musical du football, donc j'imagine passer en revue nombre de morceaux, nombre de chansons françaises et autres évoquant le football, la description précise d'un but, c'est probablement le seul exemple trouvé là dans la chanson de Jörg Eben.
Quasiment, ouais. Quasiment. On est dans un côté patrimonial dans la chanson sur le football aussi, qui est, on raconte tout ce qu'il y a autour, toute l'ambiance, tout ce que ça, toute la mythologie qui peut en être héritée, tous les sentiments, parce qu'on se rapproche du sentiment amoureux. Hein. On a des groupes qui ont consacré des chansons entières à des clubs, on a des liens très forts avec les stades, etc. Mais finalement, les buts en eux-mêmes sont non pas le parent pauvre, parce qu'ils sont de toute manière évoqués, mais...
En nombre de buts, en nombre de victoires...
Exactement, et on n'a jamais consacré une chanson à un but. Et là, en plus, c'est une très, très belle chanson. C'est une très, très belle chanson.
Le reste du répertoire que vous avez pu recueillir pour ce manuel-là, il touche davantage à un chant patriotique, à des chants vraiment sportifs. Est-ce que, par exemple, vous avez ramassé masse de chants de supporters ? Quelle est la matière ?
Il y a un côté extrêmement sentimental. Et notamment, alors, au Brésil, mais en Amérique du Sud plus généralement, mais aussi... Et surtout en Angleterre. Et l'Angleterre, c'est un terrain très très vaste pour ça. C'est-à-dire qu'on a des labels, un label anglais qui a édité pendant des années des chants de supporters. Voilà, ils ont été les...
Enregistrés au stade ?
Enregistrés au stade, réenregistrés, et ils ont sorti des compilations pour plusieurs clubs anglais. Ils ont à leur catalogue, si je me souviens bien, une vingtaine ou une trentaine de références. Et après, au-delà de ça, au-delà de ces chants patrimoniaux, les références au football sont essentiellement du côté sentimental. On affirme tout de suite un amour pour le club qu'on défend ou les inimitiés qu'on peut avoir pour d'autres clubs. Ça se situe davantage dans une relation quasiment amoureuse par rapport à son club qu'une dimension tactique ou technique qui prévaudrait dans d'autres champs de l'art. Thank you.
en una villa nació. Fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar. De cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego! Fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar. De cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. La fama le presentó una blanca mujer de misterioso sabor y prohibido placer. En su habitual deseo Dios sanó otra vez, involucrando su vida. Y es un partido que un día el Diego está por ganar. ¿A poco que debutó?
J'en profite de ce petit pont d'accordéon, Benoît Furic, pour commenter ce deuxième choix de cette carte blanche musicale qui entend donner votre propre variation autour du mot but. On reste encore un tout petit peu dans le champ sportif avec ce deuxième choix. Je vous laisse prononcer le titre, comme ça c'est vous qui prenez les risques.
Ça s'appelle La Mano de Dios, la main de Dieu, qui est une référence directe. Donc c'est dédié à Diego Maradona, le buteur argentin, et la mano de Dios, la mano de Dios est une référence directe au un des buts les plus beaux et les plus controversés de Maradona, qui a eu lieu à la Coupe du Monde 86 lors d'un match contre l'Angleterre. L'Argentine de Maradona donc joue, et Maradona, sur le premier but, saute face au gardien et de cette main de Dieu, qu'il qualifiera lui-même comme ça, marque le premier but. Ce match a un deuxième but fantastique, c'est Maradona qui remonte le terrain en dribblant la moitié de l'équipe d'Angleterre. Donc ça bâtit déjà un mythe qui était déjà très présent de Maradona, mais un mythe populaire. Et le titre fait directement référence à ça. Et la chanson qu'on entend de Rodrigo Bueno, c'est exactement ça. Alors, Maradona, en plus, c'est un personnage extrêmement atypique, avec beaucoup d'excès, de cocaïne, d'alcool. Dans sa vie, au milieu des années 80, de footballeur, il a eu énormément de sorties. Il est passé par Barcelone, par Naples, avant de repartir en Argentine. Et il a, c'est une expression un peu galvaudée, mais il a un peu brûlé la vie par les deux bouts. Il est toujours là, mais il a connu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'excès. Et cette dimension populaire, dans cette chanson-là, là, on ne s'intéresse plus au but, mais au buteur, même si la référence est le but. Et dans cette chanson-là, les paroles dressent un portrait un peu dramatique et de Maradona, finalement. Comme icône populaire, on entend en plus le public derrière cette chanson-là. A priori, il n'existe que des versions live enregistrées dans des stades, etc. Et à tel point que cette chanson a été reprise par Maradona lui-même dans le film que lui a consacré Emir Kusturica, qui s'appelait La Vida Tombola. Et Maradona la reprend lors d'un petit concert entouré d'amis, de sa famille. Et ça sert effectivement à travailler son mythe, autant un mythe dramatique, un mythe qu'on peut seulement trouver, a priori, dans la mythologie grecque, avec aller au plus haut, la descente aux enfers, etc. Donc il y a au-delà de ça, au-delà du but lui-même et du personnage de footballeur, quelque chose qui rejoint ce dont on parlait juste avant, sur le côté sentimental, extrêmement sentimental, qui est attaché au football dans la musique. On est loin du côté technique, là on oublie totalement le côté technique. Les gens vont regarder le but, re-regarder cette main de Dieu ou cette cavalcade effrénée à travers l'équipe d'Angleterre, mais c'est le personnage qui est avant tout mis en avant. C'est l'icône populaire, c'est le joueur qui est finalement comme ses compatriotes, ou en tout cas comme ceux avec qui, au milieu desquels il est né, puisqu'il est né dans un milieu pauvre à Buenos Aires. Et là, ça prend une dimension énorme, comme le football en fait. Maradona est à l'image du football, c'est-à-dire avec beaucoup d'excès, en tout cas à l'image du football des années 80 et dans le milieu dans lequel il a vécu, il a connu bien des dérives.
Le faste.
Voilà.
Est-ce qu'on peut parler un tout petit peu de Rodrigo Bueno ? Vous avez dit que c'était finalement cette chanson, elle était aussi à l'image de Maradona, en tant que dès les premières notes, on sait qu'on est dans une musique qui est populaire. Les ponts d'accordéon, la façon dont les refrains sont construits, cette voix, l'entrain quasiment, c'est difficile d'échapper à un pied qui tape sur le sol quand on écoute cette chanson-là. Elle est presque faite d'emblée pour le collectif. Qui est ce bonhomme Rodrigo Bueno ? Est-ce qu'il n'a pas lui aussi brûlé malheureusement la vie par les deux bouts ?
Alors, Rodrigo Bueno, c'est un musicien de quartetto, qui est un style de musique très populaire de Cordoba spécifiquement. Ensuite, est-ce qu'il est à l'image de... Le style musical correspond totalement, effectivement, à l'image de Maradona. Et c'est sans doute pas un hasard que cette chanson ait été un succès. Elle a été composée en 87, donc peu après, un an après le fameux match contre l'Angleterre, qui verra d'ailleurs en plus la victoire de l'Argentine lors de cette Coupe du Monde, grâce à Maradona notamment. Donc il y a un vrai lien effectivement entre la musique qui est utilisée et le personnage de Maradona. Alors c'est qu'une seule chanson qui a été consacrée à Maradona, mais il y en a eu des dizaines d'autres qui vont du tango à des chansons plus lentes, mais qui utilisent toujours les registres populaires. On peut même faire un lien avec l'Angleterre aussi dont on parlait, puisque la pop anglaise s'est beaucoup intéressée au football là-bas. Donc on est dans un vrai registre où le style populaire très attaché à un pays, le rock et la pop en l'occurrence pour la Grande-Bretagne.
C'est ce qui est sollicité au moment de produire de la musique,
voilà.
On
parle de groupe populaire.
Presque patriotique en fait.
Exactement. Et puis il y a un côté sentimental. On revient aussi au côté sentimental, c'est-à-dire que pour le faire partager, on reprend des grands hymnes. Et là, on a encore dans cette chanson de Rodrigo Bueno le fameux olé 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 qui se retrouve dans tous les stades, qu'on retrouve dans énormément de chansons, qui fait sans doute partie aussi des titres parfois qui sont utilisés tout simplement pour parler du football. C'est un chant de stade, mais on n'a pas cette, on trouve pas cette dimension de aussi populaire dans d'autres aspects, dans d'autres musiques. Là, pour le coup, c'est vraiment les musiques populaires qui se sont intéressées, qui ont pris ça, qui ont pris le football à l'intérieur de leur giron et qui l'ont fait monter. Mais on s'adresse aussi à un public qui est large, qui est populaire. Il n'y a pas vraiment de d'étonnement à avoir là-dessus.
C'est assez intéressant parce qu'on parlait avec Pierre-Louis Basse, il me semble que c'était mardi, de la figure de Pelé et évidemment de tout ce que ce souvenir d'un but était le prétexte de se souvenir de plein d'autres choses et de la silhouette de cet homme et de son jeu et aussi de l'époque qu'il draine avec lui quand on tire sur le nom Pelé. Est-ce qu'au palmarès des hommes, des joueurs à qui on a consacré des chansons, en dehors de Pelé et Maradona, il existe d'autres ?
Ah bah on peut citer Georges Best. Qui est un personnage fantasque qui a bu plus que de raison, qui a claqué son argent dans énormément de choses qui n'avaient pas grand-chose à voir avec le football et pas grand-chose à voir avec l'hygiène de vie.
Et on a chanté sur lui.
C'est une figure aussi mythique. On arrive à des figures quasi mythiques sur ces gens-là. Effectivement, quand dans l'émission de Pierre-Louis Basse, il parlait de... Je crois que c'est Puskás qui parlait du millième but de Pelé. Puisque Pelé marque son millième but, fête populaire, etc. Effectivement, c'est pas arrivé pour d'autres joueurs. Déjà, rares sont les joueurs qui sont arrivés à plus de 1000 buts.
Oui, une question de quantité, d'accord, mais en fait, on parle pas de la qualité. Moi, j'en ai mis plus que ça.
Voilà, on a affaire à quelque chose comme à un jésuite d'un côté et quelqu'un de totalement exubérant de l'autre, mais qui aussi bâtit sa légende grâce à ça. On est dans une vraie interaction finalement avec le public. Il y a là un vrai trio entre le public, la figure dont on parle et la musique qui est utilisée.
On peut imaginer en France un stade entier qui chante aujourd'hui ou dans les années 80-90 un chant en l'honneur de ce genre de figure héroïque.
Alors, en France, c'est un petit peu biaisé puisque la culture du chant de stade n'est pas quelque chose qui est excessivement développé en France. Voilà, c'est quelques chants de stade qui sont connus,
etc. C'est des chants d'encouragement qui sont souvent des
reprises sur des chansons populaires. Alors, ce qui est le cas aussi, notamment en Angleterre, ce qui est le cas en Amérique du Sud, mais... Il y a un peu plus d'inventivité et des chansons. Et puis la culture pop, on va dire, est beaucoup plus prégnante dans les travées anglaises. Après, ils se réapproprient aussi des chants de stade là-dessus. Sur des joueurs précis, à ma connaissance, c'est assez rare. En tout cas, en France, c'est pas le... On va avoir des chants d'encouragement sur le joueur lui-même, mais pas forcément de chants dédiés et sortis ex nihilo pour ça. The diamond necklace played the pawn, and a handsome drum de la walk to a handsome man at baton. A blind class aristocracy back through opera glass, you see the pit and the pendulum drum. Colonnaded ruins dominant. Canvas the town, brush the backdrop. Are you sleeping? Taken me, dim chandelier awaken me to a song dissolved in the dawn. The music hall, a costly bow, the music all is lost for now to a muted trumpeter's swan.
Benoît Furic, c'est le troisième choix, cet extrait de Smile des Beach Boys. Là, on quitte non seulement le terrain, mais on change d'Amérique, puisque ce n'est plus l'Argentine et le Brésil, mais les États-Unis. Et c'est un album des Beach Boys. Pourquoi ce choix ?
Parce que quand il était question d'un but et de parler de musique, but compris comme un objectif, c'est le premier, Smile, c'est le premier album qui m'est venu en tête. C'est le but de Brian Wilson, c'est la volonté de faire le plus grand disque de pop du monde.
Brian Wilson, qui est donc l'un des Beach Boys,
L'un des Beach Boys, le leader charismatique, c'est peut-être pas le mot, puisqu'il s'est très vite effacé, il a eu beaucoup de problèmes, mais c'était l'âme de ce groupe-là. Et... quand il a décidé de faire Smile, en fait, qui est un album, qui est un but inachevé finalement, dans la musique, il y a beaucoup, beaucoup de projets et d'objectifs comme ça, de faire le plus grand disque du monde. Celui-là est sans doute le plus grand but inachevé de la musique de la deuxième moitié du XXe siècle. Et puisqu'en 1967, il commence à enregistrer ce disque. Un an avant, il y a eu Pet Sounds, qui est un album magnifique qui a été terminé, mais qui incluait déjà une part sombre de la vie de Brian Wilson. C'est un album qui n'est pas gay comme la surf music qu'il avait l'habitude de faire avec son frère, son cousin, avec les Beach Boys tels qu'on les connaît. En 1967, il commence à réaliser cet album. Il a sorti Good Vibrations juste avant, qui a fait un carton monstrueux que tout le monde connaît, qui est une sorte de prémisse de cet album-là. Il le voit comme un album avec trois mouvements, une sorte de symphonie adolescente qui doit être... sa formule exacte, c'était symphonie adolescente adressée à Dieu. Ce qui n'est pas la moindre des choses. Et donc Brian Wilson s'y attelle. Et finalement, ce but-là va le rendre fou, véritablement fou. Parce qu'il va travailler avec... il prend de la drogue, il prend du LSD, il est complètement cramé au milieu de l'année 67, il sombre dans la dépression, mais il a toujours ce but-là à atteindre, qu'il n'atteindra véritablement jamais, puisque les enregistrements ont bien lieu en 67, mais le mixage, le travail sur les fragments, puisqu'il va travailler beaucoup sur beaucoup de séances d'enregistrement, énormément de séances d'enregistrement. Good Vibrations, qui a été produit quelques temps avant, a nécessité quasiment une vingtaine de séances d'enregistrement et a coûté $50,000, qui est une somme faramineuse pour l'époque pour un seul titre. Et donc derrière ça, Brian Wilson est complètement dépressif. Finalement, le projet tombe un peu dans les limbes. Il y aura un disque qui sera mal fagoté, on va dire, puisque ça sera des bribes qui seront récupérées des séances d'enregistrement. Mais le disque, on va dire une version à peu près aboutie, ne sera jamais sorti avant 2011. Où là, on va dire des versions à peu près correctes seront éditées, avec des pistes, des chutes de studio, etc. On va dire que ce projet-là, ce but ultime de Brian Wilson, qui finalement lui a fait perdre pied pour les 40 années suivantes, c'est Smile. C'est Smile.
Ben Benoît Furic, c'est le quatrième choix de cette carte blanche musicale. Un autre but, c'est autre chose encore comme une sorte de quête que celle évoquée pour Brian Wilson et les Beach Boys. De quoi s'agit-il ?
Il s'agit d'un enregistrement fait dans le pénitencier de Parchman en 1947 ou 1948. C'est des blues traditionnels enregistrés par Alan Lomax, qui, sans doute, si on lui avait posé la question « c'est quoi ton but ?», aurait répondu, puisqu'il l'a vraiment fait, que c'était de préserver le passé avant qu'il ne disparaisse à jamais. Et en fait, Alan Lomax est un ethnomusicologue qui a passé sa vie à collecter les sons et les enregistrements, à faire du field recordings, comme on appelle ça, pour préserver et documenter une grande partie du répertoire traditionnel qui existait aux États-Unis. Il a commencé avec son père, John Lomax, qui était rémunéré par la Bibliothèque du Congrès pour ce travail-là. Donc il passait dans les campagnes, notamment dans le Mississippi, dans le Tennessee, dans l'Alabama, dans ces états ségrégationnistes du sud conservateur, et ils enregistraient le peuple, tout simplement. Ils enregistraient donc tous les blues traditionnels noirs américains, mais également les petits pauvres blancs qui eux-mêmes avaient une culture autre. Et mine de rien, cette quête-là, elle a duré 50 ans. Il est mort en 2002, mais il a toujours poursuivi ce but-là, d'enregistrer, de collecter, de documenter et de le rendre aussi accessible à tout le monde. Vraiment. C'est un peu comme l'idée d'Internet du départ, c'est-à-dire une culture ouverte, une culture accessible à tous, quelle que soit sa condition, quelle que soit son origine.
Comment il se débrouille pour cette accessibilité ? Il signe des contrats avec des maisons de disques qui diffusent ça ? Comment ça se passe ?
Alors, à l'origine, il était rémunéré par la Bibliothèque du Congrès. Il a signé des contrats avec la maison de disques Columbia. Et en 1950, il est inquiété parce que ses idées libérales au sens nord-américain du terme, c'est-à-dire plutôt de gauche, lui valent des problèmes. On entre dans le maccartisme et donc il est plus ou moins ciblé par les autorités américaines. De là, il se rend à Londres. Il est censé y rester quelques mois pour seulement le temps que ça se tasse. Finalement, il y restera 10 ans. Et à ce moment-là, c'est Columbia qui va le rémunérer et ils vont publier 18 volumes d'une sorte d'anthologie des chants traditionnels et primitifs, en tout cas primitive comme on l'entend pareil en anglais. Donc là-dessus, il a bâti vraiment une base documentaire insensée.
Encore accessible aujourd'hui.
Encore accessible aujourd'hui, puisque c'est ça qui est fou et en même temps extrêmement enthousiasmant, c'est que sur Internet, tous ces enregistrements-là sont accessibles avec un minimum de mise en situation. Donc on peut avoir accédé aux enregistrements qu'il a fait dans le sud des États-Unis à partir des années 30 jusqu'à la fin des années, à la fin des années 40. Mais ensuite, il a continué. Pourquoi c'est un but de vie ? C'est qu'il a continué au Maroc, en Grande-Bretagne, en Espagne, en Italie, en Écosse. Il a poursuivi ça en République dominicaine aussi. Il a poursuivi ça en Europe et aux Caraïbes. Il a fait aussi quelques enregistrements dans le Mississippi. Et on trouve de tout. Là, c'est touchant parce que c'est des chants de prisonniers, mais on trouve des chants de baptême, on trouve des vieux blues du fin fond des États-Unis. Voilà, il a ouvert le spectre sur des choses qui, effectivement, sans lui, auraient pu disparaître.
Je ne sais pas si le vendredi est le but des semaines que nous commençons le lundi. En tout cas, si c'est le cas, on touche au but. Et c'est donc le dernier moment pour feuilleter le recueil de Gilles Ayot. Il s'appelle « Dans le bleu foncé du matin », paru en 1987 aux éditions Bourgois. C'est Bruno Raffaelli qui lit un dernier extrait et ça s'appelle « À Épicure ». On écoute.
Terre grecque, cette fois je regarderai ce qui est sans visage, prenant exemple sur le courage de tes enfants fouisseurs, avec les mains, avec l'esprit aveugle, avec la peau, avec un nez plus sûr que des yeux, le courage de tes enfants penseurs. La masse brumeuse et unie de l'air est comme une montagne fondamentale et sans accident, sur laquelle se lisent les jeunes ratures d'une escalade accidentelle et accidentée. Enfance sans foi racontée des descendants d'Ouranos, géants sans cervelle qui nous ont précédés. Au loin, une voix d'âne grince comme une poulie qui souffrirait de remonter une âme prise à l'hameçon d'un corps, corps esclave d'un autre corps et souffrant. Tout près, dans les roseaux, la réclamation brève, chaude et maternelle, d'une chèvre. Invisible comme un atome, un avion supersonique déchire le ventre du ciel. Silencieux comme un cygne, un gros oiseau de malheur passe près des choses, en ondulant dans l'air, comme nagent les raies. Terres au-dessus des terres, des îles immuables et fixes dans le ciel, entourent toujours de plus grandes îles, portant leur nom aveugle, celles que nous habitons. Car les traditions, comme des vents, portent ici ou là la fumée des fables, pourtant éteintes, et interrompent la vision, aujourd'hui encore.
Il parle de la mort comme tu parles d'un fruit. Il regarde la mer comme tu regardes un puits. Les femmes sont lascives au soleil redouté. Et s'il n'y a pas d'hiver, cela n'est pas l'été. La pluie est traversière, elle bat de grain en grain quelques vieux chevaux blancs qui fredonnent Gauguin. Et par manque de brise, le temps s'immobilise au marquis. Du soir montent des feux et des points de silence qui vont s'élargissant et la lune s'avance. Et la mer se déchire, infiniment brisée par des rochers qui prirent des prénoms affolés. Et puis, plus loin, des chiens, des chants de repentance, et quelques pas de deux, et quelques pas de danse. Et la nuit est soumise, et l'Alysée se brise aux marquises. Le rire est dans le cœur, le mot dans le regard. Le cœur est voyageur, l'avenir est au hasard. Et passent des cocotiers qui écrivent des chants d'amour que les sœurs d'alentour ignorent d'ignorer. Les pirogues s'en vont, les pirogues s'en viennent, et mes souvenirs deviennent ce que les vieux en font. Veux-tu que je te dise, gémir n'est pas de mise. aux marquises.
J'espère que des milliers d'oreilles vous sont reconnaissantes. Benoît Furic, c'est le dernier choix de votre carte blanche musicale autour du mot « but ». Et ce sont les Marquises de Jacques Brel. Pourquoi terminer par ça ?
Parce que c'est la chanson d'un but inachevé. C'est pour lui, il est parti faire le tour du monde en juillet 1974 parce qu'il avait appris qu'il était atteint d'un cancer du poumon. Il a décidé de tout couper, de partir. Voilà. Le but était à l'origine de faire le tour du monde en 5 ans. Il ne le fera jamais parce qu'il s'arrêtera aux Marquises, en fait, à Ivaoa, sur une des îles de l'archipel. Et c'est là qu'il va s'installer. Et cette chanson-là, c'est l'ultime chanson de l'ultime album de Brel qui sera donc composé sur cette île. Un album extrêmement différent de ce qu'il a pu faire, avant. Et quand on se retrouve sur cette île d'Ivaoa, on comprend aussi la coupure totale qu'il a pu exister entre ce qu'il avait vécu avant et ce qu'il vivait là.
Vous parlez en connaissance de cause ?
J'y suis allé. Et je me suis retrouvé sur la tombe de Brel. Et quand on arrive sur la tombe de Brel après avoir écouté cet album quand on était tout gamin, et ben si lui, cette chanson, c'est la chanson d'un but inachevé, se retrouver à écouter cette chanson, puis après arriver sur cette tombe face à la mer dans ce paysage verdoyant et tourmenté en même temps, et ben c'est réaliser le but d'une enfance.
Benoît Furic, merci infiniment d'avoir été avec nous et d'avoir signé cette très belle carte blanche musicale autour du mot « but ». Je rappelle le titre de cet ouvrage auquel vous avez participé, « Petit manuel musical de football » dirigé par Pierre-Étienne Minonzio et paru aux éditions Le Mot et le Reste. Je parle aussi très rapidement de ce livre « L'aventure commence à l'aurore » de Fred Hidalgo aux éditions de l'Archipel sur Jacques Brel et enfin le titre du blog Indictators. Merci beaucoup pour écouter cette émission franceculture.fr. Vous pourrez aussi vous abonner sur le site au podcast Pas la peine de crier, Poème du jour, Polaroid et Je déballe ma bibliothèque. Pour nous écrire, le formulaire fonctionne très bien. Merci. Grand merci pour vos mots. Très gentil en ce moment. Aux manettes aujourd'hui, c'était Jacques Hubert. Merci à Marie Placet, Céline Geoffroy et Béatrice Lecap pour le Poème du jour, à Cyril Baer, Inès Duperron et Romain de Becdelièvre qui pensent et préparent cette émission avec moi, une émission réalisée par Anne-Laure Chanel. J'ai dit que c'était Jacques aux manettes. Ouais, c'est fait. Dans un instant, Julie Gacon.